VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 octobre 2018 en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, missionnaire américain a été tué en zone anglophone.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé à Juba aujourd'hui après plus de 2 ans d'absence pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix.
En République démocratique du Congo, doute de l'UDPS sur la tenue des élections du 23 décembre prochain.
En Côte d'Ivoire, le PDCI veut une commission électorale dominée par la société civile.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump et son épouse Melania Trump se sont rendus dans la synagogue de Pittsburgh où 11 personnes ont été abattues samedi dernier.
Les États-Unis demandent le cessez-le-feu au Yémen en appui aux efforts de paix de l'émissaire spécial de l'ONU.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, un missionnaire américain a été tué mardi dans la zone anglophone du Nord-Ouest. Des détails avec Yakuba Ouedraogo.
L'identité du missionnaire américain n'est pas révélée. Il a succombé hier à ses blessures après que son véhicule a été criblé de balles à Bamboui, en banlieue de Bamenda. Blessé dans l'attaque, il a été évacué à l'hôpital de Bamenda, la capitale régionale. Le département d'État a confirmé le décès. Robert Palladino, porte-parole adjoint, a présenté ses condoléances et a offert l'aide des services consulaires américains au Cameroun. Il n'était pas possible hier soir de déterminer de manière indépendante de quel camp ont été tirés les coups de feu qui l'ont tué. Jeudi, un enseignant de l'université de Bamenda a été tué dans la même localité de Bamboui. Dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une crise sociopolitique sans précédent s'est installée depuis fin 2016. Elle s'est transformée fin 2017 en un conflit armé. Selon Human Rights Watch, plus de 175 membres des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie dans ce conflit, ainsi que plus de 400 civils et plus de 300 000 personnes ont fui les violences.
Toujours au Cameroun, 16 partisans de l'opposant Maurice Kamto ont été libérés mardi après leur arrestation dimanche. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Tous les 16 ont été libérés, a affirmé Joseph Okala Ebodé, trésorier adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ces militants ont été arrêtés dimanche sur l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre les résultats de la présidentielle. Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat avec 71,28% des suffrages et Maurice Kamto, qui revendique la victoire, est arrivé 2e avec 14,23% des voix. Depuis la proclamation de ces résultats, les manifestations publiques ont été systématiquement interdites, des conférences de presse empêchées et des militants d'opposition arrêtés brièvement. Samedi matin, une marche du MRC de Maurice Kamto à Douala a tourné court avec l'arrestation d'une cinquantaine de militants qui ont été libérés le soir même. La veille, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, avait prévenu que toutes les tentatives de troubles à l'ordre public seraient traitées avec la plus grande fermeté. Depuis 1982, Paul Biya, 85 ans, règne en maître absolu au Cameroun. Le président français Emmanuel Macron lui a adressé une lettre de félicitations tout en l'appelant à prendre des initiatives au plus vite pour résoudre la crise dans les régions anglophones.
En République démocratique du Congo, le principal parti d'opposition, l'UDPS, a dit hier douter de la tenue des élections du 23 décembre prochain et qualifié de mise en scène la remise de véhicules de l'armée à la commission électorale pour assurer la logistique du scrutin. Nanit Talani.
Pour Augustin Kabuya, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il s'agit d'une mise en scène pour séduire l'opinion nationale et internationale. 150 camions ne peuvent pas couvrir l'immense territoire national de 2,3 millions de kilomètres carrés où il n'y a même pas d'infrastructure routière. Il affirme que le président de la CENI, Corneille Nangaa, n'est pas prêt à organiser les élections le 23 décembre 2018. Tous les matériels électoraux commandés à l'étranger ne sont pas encore arrivés. Vu le temps qui reste et la superficie du pays, logiquement, je ne vois pas comment la CENI va s'y prendre pour être prête le 23 décembre, a déclaré M. Kabuya. Les autorités congolaises ont réaffirmé leur volonté d'organiser les élections sans aide extérieure. L'UDPS a confirmé qu'elle participerait aux élections avec ou sans les machines à voter, contestées par les autres partis d'opposition qui exigent l'abandon des machines à voter de fabrication sud-coréenne surnommées par les opposants de machines à frauder.
En Côte d'Ivoire, le PDCI, l'un des trois grands partis politiques, a appelé hier à Abidjan à une réforme en profondeur de la commission électorale indépendante qui devrait déboucher sur une institution crédible dominée par la société civile. Le point avec Ekia Badou.
Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication du PDCI, a dit hier dans une conférence de presse à Abidjan que la CEI n'est plus indépendante, elle est inféodée au régime. La CEI n'est pas crédible, elle doit être réformée. Le parti de l'ancien président Henri Konan Bédier veut une CEI autonome, véritablement indépendante, avec une forte représentation de la société civile. Si nous voulons que les élections présidentielles de 2020 soient crédibles et nullement entachées d'irrégularité, il faut revoir la CEI, a-t-il ajouté. Son parti appelle aussi à un nouveau découpage électoral avant la présidentielle de 2020. La coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a largement remporté les récentes municipales et régionales couplées. Le RHDP contrôle 92 municipalités contre 56 aux indépendants et 50 au PDCI, ancien allié du RHDP, passé dans l'opposition.
En Mauritanie, le chef d'état-major de l'armée a été nommé ministre de la Défense dans le gouvernement formé hier par le nouveau premier ministre Mohamed Salem Oul Béchir, et ce 6 semaines après des législatives largement remportées par le parti au pouvoir. Abdourahman Dia.
Le nouveau gouvernement formé par le premier ministre Mohamed Salem Oul Béchir, nommé lundi, a reconduit l'essentiel des membres de la précédente équipe. 7 femmes font partie du gouvernement. Le général Ould Ghazouani, nouveau ministre de la Défense, est un ami personnel du président Mohamed Ould Abdelaziz, avec qui il a conduit le coup d'État qui avait porté au pouvoir l'actuel chef de l'État en 2008. Il y a 2 nouvelles entrées, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ginga Bal, et le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed Ould Maham, jusqu'ici président du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Le premier ministre Ould Béchir, qui a remplacé Yahya Ould Hamedine, est un ingénieur de formation âgé de 56 ans. Il était auparavant ministre du pétrole et de l'énergie dans le précédent gouvernement. Monsieur Ould Abdelaziz, élu en 2009 puis réélu en 2014, doit achever son second mandat l'année prochaine. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont appelé mardi à un cessez-le-feu au Yémen pour appuyer les efforts de l'émissaire spécial de l'ONU, Martin Griffin, afin de trouver une solution pacifique et durable à ce conflit qui déchire le pays depuis plus de 3 ans. Cela doit intervenir dans les 3 prochains jours, a déclaré le secrétaire à la Défense, Jim Mattis. Son collègue du département d'État, Mike Pompeo, a de son côté apporté son soutien à l'appel de M. Mattis et à l'émissaire spécial Griffin.
À Pittsburgh, en Pennsylvanie, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump se sont rendus hier dans la synagogue où un tireur antisémite a tué samedi dernier 11 personnes. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump a salué à cette occasion le rabbin de la synagogue, Jeffrey Myers, ainsi que l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer. Le président américain était accompagné aussi de son gendre, Jared Kushner, qui portait une kippa, et de sa fille Ivanka, convertie au judaïsme lors de son mariage avec M. Kushner. Il a également rencontré à l'hôpital 3 policiers blessés lors de la confrontation avec le tireur, leur médecin traitant et par la suite la veuve d'une des victimes qui a tenu à remercier le président pour sa présence. En revanche, un grand nombre de manifestants qui estimaient inopportune la visite de M. Trump ont marché près de la synagogue. Certains d'entre eux, dont des hommes politiques et des leaders juifs, voulaient aussi que le président dénonce auparavant et fermement le nationalisme blanc. Les principaux leaders du Congrès, démocrates et républicains, avaient été invités à effectuer le déplacement avec le président Trump, mais ont décliné l'invitation.
Toujours aux États-Unis, le président Trump a suscité un tollé ainsi qu'un débat constitutionnel en annonçant son intention de signer un décret pour nier la nationalité américaine aux bébés nés de parents non américains et en situation irrégulière dans le pays. Dans une interview à Axios sur HBO, M. Trump a déclaré, en réponse à une question sur le jus soli, le droit du sol, que c'est ridicule et que ça doit prendre fin. Position rejetée par Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants, mais appuyée par le sénateur républicain Lindsey Graham. Le président américain a affirmé de manière erronée que les États-Unis sont le seul pays au monde où si une personne arrive et a un bébé, le bébé est citoyen américain.
Le FBI et la police fédérale américaine enquêtent sur les affirmations d'une femme selon lesquelles on lui aurait proposé 20 000 $ pour accuser d'agression sexuelle le procureur spécial Robert Mueller, le responsable de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Le porte-parole de M. Mueller a dit que son équipe avait saisi le FBI dès qu'elle a appris ses allégations la semaine dernière. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'annoncer que les ordures ménagères d'Abidjan seront acheminées dans un nouveau centre de valorisation et d'enfouissement technique. D'un montant total de 40,73 milliards de francs CFA, ce centre est une infrastructure moderne de traitement écologique des déchets solides dans les conditions respectueuses de l'environnement. Il est situé à Kossiwen, à environ 40 km d'Abidjan. La Banque d'agriculture, une banque publique nigériane spécialisée dans le financement de la chaîne de valeur agricole et des micro-entreprises rurales, obtiendra du gouvernement une ligne de crédit de 250 milliards de naira destinée à renforcer ses prêts aux agriculteurs du pays. Cette banque envisage augmenter ses fonds propres au cours des prochaines années. Le Kenya veut mobiliser 2,8 milliards de dollars sous forme d'obligations et prêts syndiqués en 2018. La majeure partie du financement devrait être collectée sur le marché de la dette, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité de la dette publique kényane. La Banque centrale d'Égypte vient d'indiquer que la dette extérieure du pays a atteint 92,6 milliards de dollars fin juin 2018, soit une hausse de 17,2% par rapport à l'année précédente.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Des footballeurs béninois condamnés à la prison ferme.
Oui, un tribunal de Cotonou a condamné à la prison ferme les joueurs qui avaient menti sur leur âge et des responsables après l'expulsion du Bénin de la CAN des moins de 17 ans en 2019. Anjorin Moucharaf, ancien président de la Fédération béninoise de football, a écopé de la peine la plus lourde, condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont deux fermes. 10 joueurs de l'équipe nationale cadette, épinglés dans cette même affaire, ont été condamnés à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont un ferme. Début septembre, le Bénin s'est retrouvé exclu de la CAN des moins de 17 ans, après que 10 joueurs de l'équipe cadette ont menti sur leur âge avec la complicité de plusieurs responsables de la Fédération.
En Égypte, le torchon brûle entre Al-Masri et son entraîneur.
Démissionnaire de son poste, Hossam Hassan a vu les dirigeants d'Al-Masri s'opposer à son départ. Dans la foulée, Pyramide FC, un autre club égyptien, a annoncé la nomination du technicien égyptien censé débarquer en compagnie de son frère jumeau Ibrahim Hassan. Mais c'était avant qu'Al-Masri n'émette son refus. Reste désormais à savoir si Hossam Hassan, réputé pour son fort caractère, ira jusqu'au bras de fer.
Amende pour l'adjoint de Chelsea qui s'est accroché avec Mourinho.
Marco Ianni a écopé d'une amende de 6 700 euros infligée par la fédération anglaise après son altercation le 20 octobre avec le coach de Manchester United, José Mourinho. Les deux clubs s'étaient rencontrés à l'occasion de la 9e journée de Premier League. L'entraîneur adjoint de Chelsea s'était précipité vers le banc des Red Devils pour célébrer avec vigueur devant Mourinho l'égalisation de Chelsea 2-2 après 6 minutes de temps additionnel à Stamford Bridge. NBA pour finir, les résultats de la nuit dernière avec vous Idrissa.
Charlotte battue par Miami 125 à 113. Cleveland enregistre sa première victoire depuis le départ de LeBron James en battant Atlanta. C'est un massacre, 136 à 114. Victoire de Sacramento sur Orlando, 107 à 99. Boston bat Détroit, 108 à 105. Philadelphia battue par Toronto, 129 à 112. Victoire de Portland sur Houston, 104 à 85. Memphis bat Washington, 107 à 95. Et victoire de Oklahoma City sur LA Clippers, 128 à 110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, l'opposition n'a pas pu organiser hier sa marche de protestation dans la capitale Conakry. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène devant le domicile du chef de file de l'opposition pour l'empêcher de sortir. La circulation a été perturbée sur la route Le Prince par des jeunes qui ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Le point avec notre correspondant Guinée Zakaria Camara.
Les forces de l'ordre, décidées à faire respecter l'interdiction de la marche par les autorités locales, se sont vite déployées devant le domicile de Sélu Dalain Diallo. Selon le directeur national des unités d'intervention de la police, il ne s'agit pas de confinement, mais d'assurer la sécurité du chef de file de l'opposition, général Ousmane Bafoué Camara.
Ils vont pas aimer ce que nous avons fait, mais ça va dans l'intérêt du chef de file de l'opposition, parce que même, je suis sûr, il a des militants très engagés, mais qu'ils sachent et qu'ils le reconnaissent, il y a des badauds qui s'infiltrent, qui ne sont de nul bord. Ils quittent les ghettos, ils remontent. Au fur et à mesure que le soleil tape, leur cerveau bouillit et ils agissent comme ils veulent. On n'a aucun intérêt de porter atteinte à sa vie. Qu'il sache, nous sommes aussi là pour assurer sa sécurité.
L'opposition accuse le gouvernement guinéen d'avoir fait recours à la force pour empêcher une grande mobilisation. Son chef pense que le pouvoir a peur de lui. C'est le Dalain Diallo.
C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de libertés, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous ne seriez pas là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez lui, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça, c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche. Parce qu'on sait que si Sélu sort, si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir.
Les Guinéens suivent avec attention la crise politique dans le pays et dans les rues de la capitale. Certains ont accepté de se prononcer au micro de la Voix de l'Amérique.
Je pense qu'objectivement, ce n'est pas une bonne chose pour un pays. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut manifester dans tout état de droit et c'est ce qui est recommandé. Mais quand une manifestation paralyse carrément un pays, je pense que là, c'est une mauvaise chose pour les pays.
Nous avons déjà un président en place. Et une date est prévue pour 5 ans de mandat. Ce que je dis au chef du fil d'opposition, de rester calme jusqu'à la date prévue.
Ça provoque non seulement de la pagaille dans le pays, mais aussi ça met des choses en retard aussi.
Les opposants au régime d'Alpha Condé n'entendent pas mettre fin aux manifestations. Ils protestent depuis quelques jours contre la violation d'un accord sur l'installation des exécutifs communaux. Selon eux, cet accord signé le 8 août est violé par la mouvance présidentielle qui cherche à obtenir plus d'exécutifs communaux. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Gabon, le parti au pouvoir a raflé 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale lors des élections législatives des 6 et 27 octobre. Les partis affiliés à la majorité ont aussi remporté quelques sièges. L'opposition a gagné au total 17 sièges, mais Jean-Ping a boycotté le scrutin. Ces législatives, plusieurs fois reportées, étaient le premier scrutin d'importance depuis la présidentielle de 2016, marquée par des violences meurtrières. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Libreville l'analyste politique Auguste Essono.
L'opposition gabonaise, potentiellement un avenir, si et seulement si on lui donne la place, si et seulement si une vraie démocratie se développe dans ce pays, lui donne la place qu'elle mérite. L'avenir de l'opposition se trouve dans la possibilité qu'elle va avoir de ne pas considérer que le scrutin de 2016 fait partie du passé. Parce que vous savez, dans ce pays, nous vivons toujours sur le contentieux. Du moins, lorsqu'on fait une analyse sociologique, le Gabon vit toujours sur le contentieux de 2016. La majorité de Gabonais considère toujours que l'élection de 2016 a fait élire Jinping et que Jinping n'a pas, d'une certaine façon, n'a pas joué de la légitimité que le peuple gabonais lui a reconnu à travers le suffrage. Les Gabonais sont restés sur ce contentieux-là parce qu'ils considèrent que le pouvoir a été usurpé.
La vraie opposition se joue au Parlement. Jinping a boycotté les législatives. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de sa part?
Non. Jinping est sur l'idée simple et légitime que 2016 a été caractérisé par un vote massif en sa faveur et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, ni en 2016, ni en 2000. À partir de ce moment, il est tout à fait attendu et légitime que Jinping et ses partisans considèrent que l'histoire s'est arrêtée en 2016. J'estime qu'on ne peut pas parler de boycott à partir de ce moment-là.
Est-ce que l'opposition n'apparaît pas aujourd'hui plus isolée que jamais?
Le combat que mène cette opposition est surtout un combat qui porte le sceau des bases de souveraineté, des causes populaires. Vous savez, vous pouvez gérer un pays aussi longtemps que vous voulez. Si vous gérez un pays sans vous soucier de ce que les causes populaires adhèrent à votre gouvernance ou pas, si vous ne vous souciez pas de cette question, vous pouvez durer longtemps, aussi longtemps que vous voulez. Toujours est-il que le pays que vous gérez ou le pays que vous prétendez gérer, ce pays, historiquement, est en difficulté. À partir de ce moment, ce n'est pas l'opposition qui est isolée, mais c'est plutôt le pouvoir en place qui est isolé en interne.
Mais une partie de l'opposition a participé à ce scrutin. L'opposition se disperse.
Oui, je peux vous le concéder. Il y a ce qu'on appelle ici l'opposition au service. Il y a ceux qui s'opposent au gouvernement qui est mis en place et qui, en fait, sont des alliés autour d'intérêts qui parfois sont obscurs, des intérêts non pas politiques, mais des intérêts politiciens.
C'était joint à Libreville au Gabon, l'analyste politique Auguste Essonneau.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La presse mauritanienne est-elle en train de mourir à petit feu? En tout cas, les acteurs du secteur sont formels. La presse va mal et ses difficultés sont légion, comme a pu le constater John Linden, notre envoyé spécial à Nouakchott.
Depuis 2008, Moussa Ould Ahmed dirige le groupe de presse Biladi, un groupe qui comptait à l'époque deux éditions de journaux français et arabes, de même qu'un site internet. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de son entreprise, d'où cet appel. Moussa Ould Ahmed.
Je suis toujours prêt à lancer cet appel parce que je sais que la presse mauritanienne est une presse qui est en train de mourir. C'est une presse qui n'a plus les moyens de jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est une presse qui n'a plus les moyens de faire les débats dans le pays. Et c'est une presse qui est vraiment en train de mourir, qui a besoin d'être sauvée.
Mais pour Moussa Ould Ahmed, si son groupe a chuté, le gouvernement y est pour beaucoup.
Cela a été accentué par le fait que l'actuel gouvernement mauritanien a donné instruction à tous ses services de s'abstenir de faire de la publicité dans la presse privé, de s'abstenir de faire des abonnements. Et puis on s'est trouvé aujourd'hui dans cette situation de la presse qui est une situation carrément catastrophique.
Des difficultés visibles ici au siège du quotidien de Nouakchott, un journal indépendant d'information générale. Moussa Sambassi, son directeur de publication et président du RPM, le regroupement de la presse mauritanienne, accuse également les autorités gouvernementales. Moussa Sambassi.
Les autorités qui ne sont pas tellement contentes, on va dire, de ce que fait la presse mauritanienne, et donc du coup qui lui met des bâtons dans les roues, qui ajoute aux difficultés déjà de la conjoncture, des difficultés au plan national.
Tous nos efforts pour obtenir la réaction des autorités mauritaniennes sont restés infructueux. Aucune chance non plus du côté de la presse officielle. Les responsables des médias que nous avons pu rencontrer soulignent aussi que l'imprimerie nationale, seul imprimeur du pays, n'arrive pas à fonctionner normalement. Autre difficulté, la disparition des annonceurs, notamment publics, mais aussi les problèmes d'accès à l'information. Toutes choses qui ont fini par tuer ou presque la presse mauritanienne. Moussa Sambassi.
Aujourd'hui, en tout cas, la presse mauritanienne est dans une situation critique. Elle est, pour certains, pour utiliser l'expression d'un de mes confrères, elle est en situation de mort clinique, ou en tout cas dans le coma.
Pour l'heure, les médias internationaux ou des sites locaux comme CRIDEM s'efforcent d'occuper le terrain de l'information à côté des médias d'État. John Lyndon, VO Afrique, Nouakchott.
Au Cameroun, à Yaoundé et à Douala, les deux principales villes du pays, 80% du bois de sciage sont d'origine illégale selon une récente étude du Centre pour la recherche forestière internationale, ce qui justifie une campagne en cours qui vise à faire émerger l'achat du bois légal tant par les acteurs publics que privés. De Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Nous sommes au parc à bois du quartier Mangué à Yaoundé. Sur un espace d'une centaine de mètres environ, hommes et femmes ont fait de la vente du bois de sciage ici leur activité quotidienne. Le parc a été ouvert il y a 40 ans. Étienne Bocagnin, Étienne, vice-président de l'Association nationale du collectif des vendeurs de bois et assimilés du Cameroun, chef du parc de bois du quartier Mangué.
Les vendeurs ont été tous d'accord de vendre le bois légal. Mais ils vont trouver ce bois légal où ? Sur le bois légal qu'on peut appeler le bois de série, il manque de série. Sur le bois qu'on appelle justement le bois informel, les vendeurs demandent comment faire pour acquérir les papiers. En sachant qu'en vendant du bois légal, c'est tout sûr, le vendeur va aussi en profiter quelque chose dessus.
Le Cameroun perd 800 000 mètres cubes de bois par an dans le circuit du bois de sciage d'origine illégale. L'État n'est pas le seul perdant dans l'affaire. Marthe et Étienne, vendeurs au parc de bois au quartier Mangué à Yaoundé.
Ils ont maintenu les agents de forêt. Une taxe qu'on demande de payer, c'est 1 000 francs. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on se dit que par rapport à la série, ils paient les impôts, qu'on doit encore payer.
Vous allez prendre le bois, on va vous rançonner tout le long de la route. Arrivez sur place, vous allez même vendre le bois et vous allez vendre en perte.
La campagne sur la promotion de demandes en bois de sciage d'origine légale, initiée par le Centre pour la recherche forestière internationale, en partenariat avec le gouvernement camerounais, a surtout permis d'identifier les filières de consommation du bois de sciage d'origine illégale au Cameroun. Liboum Bonayem est chercheur au Centre pour la recherche forestière internationale. Il suit de près la question du bois de sciage d'origine légale au Cameroun.
La demande actuelle de bois d'origine légale au niveau des boutiques de meubles, elle a été estimée entre 2015 et 2016 à près de 6 000 mètres cubes de bois, mais toujours aucune sollicitation à ce que ce bois soit d'origine légale. Et dans les marchés publics, elle a été estimée à 13 000 mètres cubes de bois et toujours aucune sollicitation de la part des demandeurs que le bois soit d'origine légale. 22 000 mètres cubes de bois dans les ateliers de menuiserie, mais aucune sollicitation du bois d'origine légale dans ces 22 000 mètres cubes de bois.
Le gouvernement camerounais s'attelle depuis 2010 à créer dans chaque grand centre urbain un marché de bois d'origine légale. Selon un responsable du ministère des Forêts et de la Faune, à l'issue de la campagne en cours, certaines facilités administratives pourraient être accordées aux vendeurs de bois à l'instar des petits titres d'exploitation forestière. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la vaccination en République démocratique du Congo.
Le 10 octobre dernier, les autorités congolaises ont inauguré un grand centre de stockage des vaccins près de la capitale. Elles annoncent par ailleurs un plan d'urgence visant à vacciner plus de 200 000 enfants d'ici 2020.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Michel Niemboué Kalala, chargé de la surveillance au programme élargi de la vaccination de la RDC.
Nous parlerons des défis liés à cette politique vaccinale avec le docteur Pouema Toussaint, médecin traitant dans un centre de santé de Lumumba.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont lieu mardi prochain, même si le vote anticipé a déjà démarré. Elles concernent les deux chambres du Congrès américain et, comme d'habitude, se tiennent à la mi-mandat de chaque président du pays. Que faut-il savoir de ces élections? Quels en sont les enjeux? Que vont-elles signifier pour le président Donald Trump et pour son agenda, dont sa politique étrangère? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.